DW. Droits et libertés.
L'année 2024 s'est terminée sur un gros point d'interrogation en Syrie. Des milices rebelles sont parvenues à renverser la dictature de Bachar al-Assad, mais leur positionnement politique reste encore incertain. De nombreuses organisations de défense des droits humains, des gouvernements aussi, ont appelé les nouveaux dirigeants du pays à protéger les droits des minorités, mais aussi ceux des femmes. Et c'est justement aux femmes syriennes que nous donnons la parole cette semaine pour connaître leurs attentes dans leur pays qui se renouvelle. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. À Damas, deux reporters de la DW, Aya Ibrahim et Rama Al-Jarmakani, ont réuni plusieurs femmes engagées politiquement pour leur poser la question « Qu'attendez-vous de la Syrie nouvelle qui se profile ?» Et vous allez le voir, en dépit de leurs dissensions politiques, elles fondent des espoirs qui se rejoignent pour l'avenir. On commence par Salma Sayad, une militante féministe. Je veux un État dans lequel tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur race, leurs origines ethniques, leurs croyances ou leurs convictions. Je veux une constitution qui traite tout le monde de façon égale. Je veux un code civil qui garantisse le statut de chaque individu. Je veux aussi avoir les mêmes droits de garde pour mes enfants que mon mari.
Kinda Stout, une autre militante.
Je veux modifier toutes les lois. La loi électorale, les lois sur la citoyenneté, les lois sur l'héritage, les lois sur les enfants de lignées inconnues. Ces enfants devraient être enregistrés sous le nom de leur mère.
Naham Soliman, juriste.
Je souhaite avoir une constitution qui prenne le genre en compte, qui reconnaisse la liberté des femmes dans leur vie privée comme publique. Voici pour les plus grands espoirs qu'elles nous ont confiés. Cela dit, des craintes perdurent sur ce que feront les islamistes radicaux une fois vraiment installés au pouvoir.
Sama Adwan, artiste.
Je m'inquiète surtout pour nos libertés en tant que femmes et en tant que citoyennes.
Salma Sayad, militante des droits des femmes.
Je crains que le régime n'ait que changé de nom, mais qu'en fait nous ayons à subir un nouveau dictateur sous une autre forme. On a connu la dictature militaire, autoritaire. J'ai peur qu'on ait maintenant une dictature religieuse. Je redoute l'islam politique. Même si je n'ai rien en soi contre l'islam, moi-même, je suis musulmane.
Raja Tanjour, militante féministe.
Le pire scénario pour moi, ce serait l'extrémisme religieux, comme ce qu'ont vécu les Iraniens après la chute du Shah d'Iran. Dans la rue, la plupart des personnes que nos reporters ont rencontrées se montrent plutôt optimistes. Je n'ai pas peur. Nous avons commencé à construire un nouvel avenir. La Syrie nous appartient de nouveau.
Je pense que la situation s'est améliorée. Mes enfants vivaient loin de moi, mais maintenant ma fille est revenue en Syrie après 9 ans passés à l'étranger.
Nous, les jeunes, nous espérons reconstruire le pays. La situation actuelle est bien meilleure que ce à quoi nous nous attendions.
Aya Ibrahim, correspondante de la Deutsche Welle.
Partout dans Damas, l'ambiance est à la fête, que ce soit parmi les hommes, les enfants ou les femmes. Les militantes féministes que nous avons interrogées nous ont toutes dit qu'il y avait encore beaucoup à faire pour que la Syrie soit conforme au pays de leurs rêves.
Mais les Syriennes, réunies par la Deutsche Welle, sont déjà en train de mettre des stratégies sur pied pour que leurs rêves deviennent bel et bien réalité.
Raja Tanjour, militante féministe.
Nous nous sommes formées, nous avons organisé des ateliers, etc. Mais beaucoup d'autres femmes n'ont pas eu cette chance. Il faut que nous travaillions maintenant à un concept horizontal qui soit accessible à toutes les femmes pour éveiller leur conscience.
Amina, simple syrienne.
Nous devons apporter un soutien psychologique aux gens, notamment aux familles de détenus qui ont vu revenir leurs enfants devenus squelettes.
Kinda Stout, militante féministe.
Maintenant, nous avons la liberté de protester. Alors nous descendrons dans la rue dès que nécessaire. Et si de nouvelles lois sont adoptées pour nous en empêcher, nous fuirons et prendrons le chemin de l'exil. Et avant de refermer ce magazine Droits et Libertés, puisque nous avons parlé d'exil il y a quelques instants, saviez-vous que le passeport a été introduit il y a 100 ans seulement ? Sans ce document, il est désormais impossible de voyager et en 2025, la plupart des passeports du monde sont dotés de photos biométriques, de codes-barres, d'hologrammes, de micropuces. Ils sont de plus en plus infalsifiables grâce à la technologie de pointe. Un passeport pour certains, c'est une porte ouverte sur le monde. Pour d'autres, pour peu qu'il n'ait pas le bon passeport en poche, les frontières restent souvent fermées. Mais voici une petite histoire pour comprendre comment nous en sommes venus à être presque tous détenteurs de ce document. Alors quand je vous disais que le passeport a fait son apparition il y a un siècle seulement, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, depuis le XIVe siècle, il existe des documents qui servent à voyager. À cette époque, on est encore au Moyen-Âge, en Europe, la peste s'est abattue sur le continent et les villes, comme Venise par exemple, essaient de se défaire de ce fléau. Entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, la peste a fait environ 200 millions de morts. C'est ainsi qu'est né le billet de santé, appelé aussi passeport sanitaire. Ce document établissait le lieu de résidence des personnes et quelqu'un qui présentait un document en provenance d'une zone touchée par la peste n'avait pas le droit de pénétrer dans Venise. Le phénomène s'institutionnalise en Italie, même si l'État italien à proprement parler n'existe pas encore, en Espagne et en France au début. Et vous avez bien entendu, à l'époque, le billet de santé ne mentionne que le lieu où habitent les gens. Ce n'est qu'au XXe siècle que le passeport a fait un lien entre les personnes et leur nationalité. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'idée d'un standard international voit le jour. C'est la Société des Nations qui choisit en 1922 d'établir le passeport Nansen comme premier passeport pour les personnes rendues apatrides par le conflit. Ce document doit son nom au premier haut-commissaire pour les réfugiés, Fridtjof Nansen. Certains pays comme l'Allemagne exigeaient déjà, durant le conflit, que les personnes originaires de pays ennemis s'identifient avec des papiers, cela dit. Mais c'est dans les années 1920 qu'a été décidé par exemple le format international des passeports. 15,5 cm sur 10,5 cm et 32 pages dont la première est ornée du nom et du symbole du pays d'origine. Vous pouvez vérifier, ils sont toujours de cette taille actuellement. La bureaucratie est liée au passeport, l'intrusion de l'État dans l'intimité de chacun, ces aspects ont été très critiqués par la presse au début. En 1926, un article du New York Times qualifie le document de passeport nuisance qui entrave la libre circulation des personnes entre les nations. Aujourd'hui encore, selon le passeport que vous avez en poche, vous ne partez pas avec les mêmes chances que les autres d'obtenir un visa pour l'étranger. Certains passeports confèrent de véritables privilèges, d'autres sont parfois vus comme des stigmates dont il est difficile de se défaire. On estime que 10 millions de personnes environ sont toujours apatrides actuellement. 70% des Sinti et des Roms d'Allemagne, par exemple, n'auraient ainsi pas de documents d'identité. Si vous parlez anglais et que ce type de petite anecdote sur les choses du quotidien vous intéresse, Charlie Shield, Rachel Stewart et Sam Baker proposent un podcast Deutsche Welle qui leur est consacré, en anglais donc, son titre « Don't drink the milk, the curious history of things ». C'est la fin de ce magazine. Merci à Raina Broya, Aya Ibrahim et Rama Al-Jarmakani pour les sons. Si vous souhaitez réécouter, partager cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet tw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.